bienfaisante pour moi. Je vous remercie aussi d'être présent vous-même ce soir. Mardi soir n'est pas un jour où l'on sort si facilement. Et je suis d'autant plus heureux que vous soyez tous au rendez-vous de ces conférences liées à l'exposition « Regard sur le Christ ». Pascal, Blaise Pascal, qui aurait sans doute pas mal de titres à être élu le plus grand français de tous les temps. Vous savez, j'ai entendu qu'à la télé, il y a quelque chose de ce genre qui se déroule ces temps-ci. Pascal a osé écrire dans les notes de son livre dont nous n'avons que des fragments, intitulé « Les pensées », au numéro 706 dans la numérotation de Brunswick, la plus grande des preuves de Jésus-Christ sont les prophéties. Il parlait, sous le nom de prophétie, des oracles préservés dans les saintes écritures hébraïques, et il affirmait que ces oracles, en s'accomplissant dans la vie de Jésus, Yeshua, pour prononcer son nom à la manière des Juifs du premier siècle, Yeshua de Nazareth, parce que c'était à Nazareth qu'il avait passé la deuxième partie de son enfance et ses premières années d'âge adulte. Donc, les faits de la vie de ce Yeshua et les prophéties de ce que les Juifs aujourd'hui appellent le Tanakh, c'est un acrostiche pour Torah, Neviim, les prophètes, Ketuvim, les écrits. Alors ils disent le Tanakh par abréviation. Donc les faits de la vie de Jésus correspondent à ce point au Tanakh que Pascal, qui avait appris l'hébreu exprès pour les étudier plus à fond, jugeait que c'était la plus grande des preuves de Jésus-Christ que fournissait cette concordance. Et en tout cas, les premiers disciples de Jésus, qui ont constitué d'abord un groupe dans le judaïsme, avant de devenir ce qu'on appelle le christianisme, les premiers disciples de Jésus ont entraîné un grand nombre de leurs compatriotes. Il y a eu des milliers de juifs qui ont adhéré au message de Yeshua. Le livre des Actes des Apôtres nous le certifie. Ont entraîné donc beaucoup de leurs compatriotes en arguant tout d'abord et peut-être principalement de cet accomplissement des prophéties. On peut dire que la relation est réciproque. Les prophéties et les événements de la vie de Jésus s'authentifient mutuellement. En s'accomplissant dans la vie de Jésus, les prophéties se révèlent comme d'authentiques paroles surnaturelles. Vraiment ce que Dieu lui-même a dit et que seul il pouvait dire si longtemps à l'avance. Et réciproquement, en correspondant à ces vieux textes légués par leurs ancêtres, les Juifs voyaient que les événements de la vie de Jésus le désignaient comme celui qui devait venir, comme le Messie d'Israël, comme le Sauveur du monde. Authentification mutuelle qui était pour eux très frappante et convaincante et qui demeure pour la foi des chrétiens aujourd'hui un fondement particulièrement remarquable. C'est à cette correspondance que nous voulons nous attacher ce soir. Nous voulons examiner les axes principaux de l'annonce prophétique de Jésus dans ces textes du Tanakh, dans ces oracles et dans les plus directs d'entre eux, tels qu'ils sont préservés par la tradition juive. J'écarte deux séries de données que l'on pourrait étudier si on avait davantage de temps, et aussi pour certaines d'entre elles, en tout cas davantage de compétences que je n'en ai. Je me concentre, comme tout ce que j'ai dit jusqu'à présent déjà vous le suggère, sur l'annonce prophétique de Jésus-Christ dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque. Certains ont cru voir, du côté païen, une annonce prophétique de Jésus-Christ. Et pendant tout un temps, la tradition chrétienne en a fait grand cas. Les chrétiens de l'Antiquité, pas immédiatement, mais après un ou deux siècles, ont très très souvent cité la quatrième églogue de Virgile. Virgile, le grand poète latin, a écrit un poème en 40 avant notre ère, qui annonce la venue d'un âge d'or et la naissance d'un enfant par qui cet âge d'or doit être instauré. Et les chrétiens y ont vu une prophétie par ce poète païen. C'est d'ailleurs à cause de ce rôle attribué à Virgile que dans la Divine Comédie de Dante, par exemple, bien que païen et incapable comme païen d'accéder au paradis, il sert de guide désigné par le ciel pour Dante lors de son grand voyage aux enfers, mais aussi au purgatoire, et finalement Virgile doit le laisser quand il atteint le paradis. Virgile a été considéré comme un prophète païen. Les Sibylles également. Les Sibylles étaient des prêtresses devineresses, prophétesses, si vous voulez, d'Apollon, par lesquelles le dieu Apollon était censé parler. Et il y a eu des livres et des livres de prétendus oracles apolliniens qu'avaient émis les Sibylles. Certains d'entre eux, on appelle généralement cette collection les oracles sibyllins, ont été réécrit en fait par des juifs et en fait sans doute par des chrétiens. Mais par la suite, la chrétienté a vraiment cru qu'il s'agissait de prophéties que des sibylles réelles de Cum, Érythrée, avaient émises. Et si je me rappelle bien, ma mémoire hélas peut me trahir, mais le pavement de la cathédrale de Sienne, cela m'avait impressionné quand je l'ai visité, propose d'une part la représentation des prophètes d'Israël et d'autre part la représentation de ces sibylles symétriquement comme les témoins de gauche et de droite qui ont annoncé la venue de Jésus. Et j'ai lu dans un dictionnaire, je l'ai vu aussi mais je ne me rappelle plus, qu'à la chapelle Sixtine, ces sibylles aussi sont représentées avec les prophètes. Il y a donc eu pour une bonne part de la tradition chrétienne, un témoignage prophétique, une annonce par des païens de la venue de Jésus-Christ. J'estime que le terrain est trop peu sûr et que de toute façon je n'ai pas la compétence pour m'y hasarder. Et donc je n'en parlerai pas après cette mention que j'en ai faite. Dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, je vais aussi me contenter des prophéties les plus directes. D'une part parce qu'il faut que je résume, que je sélectionne, et parce que sans doute, pour des personnes qui abordent la Bible, c'est ce qui peut être le plus frappant. Mais je suis persuadé, pour ma part, qu'il y a encore beaucoup d'autres données qui pointent vers Jésus-Christ. Il y a en particulier des préfigurations que Dieu a voulu qui peuvent être déchiffrés comme des signes qu'il a accordés à son peuple pour que celui-ci se prépare à la venue de celui qui devait venir. Si le titre d'agneau, agneau de Dieu, qui est évoqué par l'inscription même qui est derrière moi, si le titre d'agneau de Dieu a été un titre pour Jésus-Christ, dans toute la tradition chrétienne et déjà dans le Nouveau Testament, c'est en vertu d'une telle préfiguration. Parce que Jésus est considéré comme l'antitype, c'est le terme technique, de ce que l'on trouve abondamment dans l'Ancien Testament, les sacrifices dont les agneaux étaient les victimes sans doute les plus caractéristiques. L'agneau, c'est l'animal sacrificiel. Tous les sacrifices peuvent être considérés comme des préfigurations de Jésus. Mais je ne vais pas en parler davantage aujourd'hui. Je vais me concentrer sur les lignes les plus directes. Mais avant de le faire, voyez, j'aime les longues introductions, mais j'espère ne pas vous lasser pour autant, je crois que c'est important. Avant de le faire, cependant, je crois utile de traiter de trois objections qu'on peut élever en quelque sorte d'emblée, avant même qu'on commence. Trois objections à l'entreprise dans laquelle nous nous lançons. Trois objections qu'on peut faire a priori, et qui sont assez sérieuses, que nous avons à traiter sérieusement. Je crois que nous pouvons nous rappeler que la foi est aussi éloignée de la crédulité que de l'incrédulité. Et s'il y a des objections qui ont un certain poids, nous avons à les considérer. Alors il y en a trois qui me semblent surgir, et finalement, examiner, je crois qu'aucune d'elles ne tient, mais il faut prendre le temps de s'en occuper. Contre l'exploration à laquelle je vous invite, on peut objecter d'emblée que une telle exploration ne vous dira rien parce que les textes sur lesquels on veut s'appuyer ont été trafiqués. Comment savoir que nous avons d'authentiques prophéties émises des siècles avant que Jésus paraisse? En fait, il y a lieu de soupçonner que ces textes ont été arrangés pour correspondre aux événements de la vie de Jésus, comme des outils de propagande. L'objection, si elle est valide, ruine l'argument. Il n'y a plus du tout de preuve de Jésus dans les textes prophétiques si ces textes prophétiques ont été réécrits pour correspondre à la vie de Jésus après coup. Voilà l'objection que certains, je pense, sont prêts à élever. Je crois que c'est l'objection qui tient le moins, qu'il est possible de la repousser très facilement à cause d'un fait qui est un fait paradoxal. Ces prophéties auxquelles nous comparons les événements de la vie de Jésus pour dire « mais les deux se correspondent si bien », ces prophéties ont été préservées précisément par ces autorités du judaïsme qui refusent, ont refusé et refusent toujours de reconnaître que Jésus en est l'accomplissement. Leur refus, qui est si triste, de reconnaître que Jésus est en effet le Messie attendu, fait d'eux des témoins de la préservation du texte dans son intégralité et sa pure vérité, insoupçonnable. C'est eux qui nous ont transmis les textes des prophéties. Alors on sait qu'ils ont mis un soin tout particulier pour leurs textes saints. Ils n'ont pas recopié de manière légère. Vous savez que dans la copie des manuscrits de l'Ancien Testament, ils avaient compté toutes les lettres. Et si une copie était faite d'un livre du Tanakh, et que le nombre des lettres que l'on comptait une fois le travail achevé ne correspondait pas au nombre qu'il fallait trouver, la copie était déchirée, brûlée. Se dire le soin qu'ils mettaient à la préservation de ces livres. Mais de toute façon, par leur hostilité au christianisme, à la reconnaissance de Yeshua comme le Messie attendu, ils sont garants de l'authenticité entière des textes prophétiques. Cela, Saint Augustin l'avait remarqué, et Calvin et Pascal reprennent cette considération. Dieu a fait en sorte que les rabbins soient les libraires de l'Église, qui ont préservé les livres sur lesquels on peut s'appuyer. Donc cette première objection, je crois, on peut l'écarter sans hésiter. La seconde objection est en quelque sorte symétrique. Et du fait même qu'elle est symétrique, on peut se demander si elle naît d'une méfiance méthodologiquement justifiée ou si elle montre déjà un refus secret de recevoir aucune preuve face à Jésus et ce qu'il affirme. Mais la deuxième objection, c'est que d'accord, les textes prophétiques préservés par la tradition juive, eux, ne sont pas soupçonnables, mais comment savons-nous que les événements dont nous parlent les évangiles se sont réellement produits? Le doute qui corrode et qui mine peut s'attaquer au récit des évangiles, et c'est du côté des événements, cette fois, que certains peuvent dire, en fait, il n'est pas sûr du tout que le deuxième terme dans la comparaison soit bien solidement établi. En fait, on a inventé les épisodes de la vie de Jésus pour correspondre aux prophéties. Oui, c'est la même idée que dans la première objection, mais juste inversée. Alors, comment répondre à cette objection-là? Il est plus difficile d'y répondre qu'à la première. En un sens, si quelqu'un veut douter d'un fait historique, il peut toujours le faire s'il met la barre si haut pour être sûr que, finalement, il n'y a pas assez de témoignages. Il peut toujours nier. En fait, vous le savez, nous avons des gens aujourd'hui qu'on appelle révisionnistes et négationnistes, et certains sont professeurs de faculté, professeurs d'histoire, qui, malgré tous les témoignages de gens qui sont encore vivants aujourd'hui, malgré les preuves, les photos, etc., nient l'existence des chambres à gaz. Quand quelqu'un ne veut pas admettre un fait historique, vous pouvez lui administrer toutes les preuves voulues, il peut toujours dire non. Alors, en un sens, pour les événements de la vie de Jésus, pour lesquels, bien sûr, comme pour tous les autres événements de l'Antiquité, ou presque, il y a très peu de témoignages. Il n'y a pas de possibilité de nombreux recoupements. Si quelqu'un veut mettre en doute, il peut toujours le faire. Donc, dans ce sens, l'objection a de la force. Cependant, il y a des considérations qui me semblent montrer que ce doute n'est pas fondé, qu'il n'est pas raisonnable pour quelqu'un qui veut rester ouvert, qui n'a pas décidé d'avance, qu'il n'admettra pas cette fameuse correspondance entre les événements et les prophéties. Il y a trois considérations qui me semblent liées à la situation concrète du premier siècle de notre ère, qui rendent très peu vraisemblable que les récits des évangiles aient été des inventions pour correspondre aux prophéties. Il y a d'abord que, pour la plupart de ces faits, il s'agissait de faits publics. C'était un personnage public qu'avait été Jésus. Il avait suscité de l'émoi, il avait déclenché des actions de la part des autorités. Ce n'est pas dans un vague recoin obscur que ces choses se sont passées. C'est ce que l'apôtre Paul fait valoir, vous le savez, dans un de ses discours du livre des Actes, au chapitre 26. Il s'agit de faits publics. Et au moment où les témoins de Jésus en ont parlé, il y avait des tas et des tas de gens, pratiquement leurs auditeurs, qui avaient vu eux-mêmes beaucoup de ces choses. Il y avait des tas de témoins qui pouvaient être immédiatement questionnés sur la réalité des événements. Et ça, c'est le deuxième aspect qui me semble devoir être pris en compte. La brièveté des délais. Il y a pratiquement aucun intervalle entre les événements en cause et le témoignage oral, les discours qui présentent cette correspondance entre les prophéties et les événements de la vie de Jésus, comme le livre des Actes nous le fait voir, et c'est impliqué par la croissance de ce petit groupe dans le judaïsme, et puis déborde les frontières du judaïsme, il atteint le monde païen aussi en quelques années. Le délai est très bref, et le délai reste très bref pour la mise par écrit de ces choses dans notre Nouveau Testament. Cela se fait le temps d'une génération, avec donc des tas de gens pour détecter une fraude éventuelle, pour se porter garant s'ils sont bien d'accord. Lorsque les gens parlent d'invention, ils ont l'image des productions folkloriques. Dans tous les peuples, il y a des histoires sur des héros plus ou moins légendaires qui croissent et fleurissent de génération en génération. Il y a effectivement un travail de l'imaginaire collectif qui produit des tas d'histoires. C'est ce qu'on appelle le folklore. Mais cela réclame du temps. C'est quelque chose qui se déroule sur des centaines d'années et non pas quelques années, comme la constitution du Nouveau Testament. Et une autre considération s'ajoute encore à ces deux que je viens de vous présenter. Et il y a le fait que c'est dans une situation de conflit extrême que ce témoignage était porté. C'était un conflit qui avait aussi des composantes judiciaires. Les Juifs, comme les Romains, étaient spécialistes du droit. C'était des nations de juristes qui savaient comment dérouler des procédures, faire des enquêtes. Et le petit groupe des disciples de Jésus, ils ont voulu le contrer et le supprimer. C'était à l'évidence pour eux quelque chose de très gênant. S'ils avaient eu le moyen de démontrer la fausseté de ce que les disciples racontaient, ils l'auraient fait, bien entendu. Il y a une preuve, en quelque sorte, très forte dans l'absence d'une riposte efficace de leur part sur ce terrain. Donc, si l'on songe à ces conditions concrètes du témoignage qui s'est ensuite, en quelque sorte, cristallisé par écrit dans notre Nouveau Testament, je pense qu'on peut dire qu'il y a fort peu de raisons de douter de la réalité historique des choses racontées. Donc la deuxième objection ne peut pas tenir sérieusement. Alors la troisième, il y en a une troisième encore, elle porte, si vous voulez, sur le rapport entre les deux. Les deux termes de la comparaison étant quand même acceptés, la méfiance s'attaque à leur liaison en disant « Le langage des prophéties est si obscur qu'on peut leur faire dire n'importe quoi. » Alors on peut effectivement manipuler la lecture de telle sorte que cela semble s'accomplir dans les événements de la vie de Jésus. Langage si obscur, ambigu, équivoque, que finalement l'interprète, s'il est assez habile, peut faire dire n'importe quoi. De nouveau, cette objection s'accroche à une petite aspérité du vrai. Les objections, les arguments les plus efficaces, en sens contraire, se rapportent généralement à quelques éléments de vérité, malgré tout. Et je pense qu'il faut dire que l'élément de vérité dans cette objection, c'est que le langage des prophéties n'est pas tout facile à comprendre. Et qu'il y a en effet une certaine marge d'incertitude, une certaine marge de variation entre les interprétations qu'on peut en donner. Il est vrai qu'il ne s'agit pas exactement du même langage que dans le journal d'aujourd'hui, ou que dans un rapport de police sur des faits donnés. Le langage des prophéties est un langage qui est particulier et nous n'avons pas à nier quelques degrés de difficulté. Je pense qu'il y a deux raisons principales pour cette difficulté du langage prophétique. Il y a l'éloignement dans le temps. Il y a le fait que ces prophéties ont été dites dans une ou deux langues, parce qu'en fait, dans la Bible hébraïque, il y a quelques passages en araméen, et c'est le cas d'une partie du livre de Daniel. Donc, dans une ou deux langues qui ne nous sont pas généralement très familières, et surtout dans un contexte dont nous ignorons beaucoup. Vous le savez, pour comprendre la parole de quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues, pratiquement chaque fois que nous communiquons. entre celui qui parle et celui qui écoute, et il y a en commun une situation qui est connue de l'un et de l'autre, et alors on n'a pas besoin de tout dire. Le contexte fait partie de ce qu'il faut connaître pour bien comprendre, et cela n'est pas énoncé. Mais quand il s'agit du contexte de paroles qui ont été prononcées il y a 27 siècles, nous en savons quand même bien peu, et cela fait une difficulté. Cela laisse ouvertes deux ou trois possibilités, par exemple, devant les mots d'un texte. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous devons reconnaître que le langage n'est pas si facile. La seconde raison tient au mode de la révélation. Dieu a voulu parler par les prophètes, et pas les prophètes pas comme des marionnettes, pas même comme un micro et un haut-parleur. Il parle par les prophètes qui sont eux-mêmes actifs et responsables, dont l'intelligence est mise en jeu dans leur ministère. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par exemple, peut parler de la hardiesse d'Ésaïe. Il dit « Ésaïe s'enhardit jusqu'à dire », voyez, parce que Ésaïe n'est pas simplement un mécanisme, un instrument inerte par lequel le Seigneur parlerait. C'est aussi vraiment sa parole. Et je crois que quand Dieu ne le fait pas, c'est un jugement sur l'homme. Il y a un cas dans l'Écriture où le sens de Dieu n'est pas le sens de l'homme. C'est le cas de Caïphe, le grand prêtre qui a condamné Jésus. Et ce Caïphe a prononcé une prophétie involontaire, c'est-à-dire à laquelle il donnait un sens. Les mots avaient pour lui un sens et à laquelle Dieu donnait un autre sens. Dieu lui a fait dire ça, mais c'était un jugement contre lui que le sens de Dieu n'était pas le sens de l'homme. Le sens de l'homme, c'était un calcul de politicien. Si nous laissons ce Jésus continuer à agiter la population, ça va nous attirer des ennuis du côté des Romains. Il vaut mieux, c'est plus avantageux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple. Et Dieu lui a fait dire ça pour faire apparaître le sens de la mort de Jésus qui meurt à la place de tout le peuple, pour son salut. Donc, il y a bien une prophétie où le sens de l'homme et le sens de Dieu ne coïncident pas, mais c'est un jugement. En général, pour les prophètes qui ont été des instruments obéissants, élus par Dieu en son amour, pour qu'ils parlent en son nom, il y a coïncidence. Dieu parle par le prophète. Et de ce fait, il aurait été tout à fait artificiel, bizarre, que Dieu parle dans un langage littéral de choses qui allaient se dérouler des siècles après, dans un tout autre contexte. Pour que le prophète puisse comprendre, saisir quelque chose et le dire, Dieu lui parle, lui donne l'intuition de ce qui va venir, ou une vision au sens plus précis et technique parfois, mais en utilisant les éléments qui sont dans l'esprit de ce prophète, les choses qu'il connaît. Il lui annonce l'avenir par le truchement des réalités que ce prophète connaît en son propre temps. Et du coup, le prophète parle par image, parle dans un langage dont il faut que nous discernions l'application décalée, au moins dans certains cas. Et c'est ce mode de révélation de la parole prophétique qui fait que, c'est vrai, le langage prophétique ne se comprend pas tout facilement d'emblée. Mais je pense qu'il y a quand même de quoi répondre à ceux qui élèvent cette pensée comme une objection à la recherche de la correspondance. Les prophéties continuent d'être écrites dans un langage intelligible. Fondamentalement, c'est un langage que quiconque peut comprendre. Pour quiconque c'est l'hébreu et l'araméen pour les prophéties dans l'original, mais elles sont traduites de manière satisfaisante par de nombreuses versions en français. C'est un langage intelligible. Ce n'est pas du tout comme du Nostradamus. Voilà le point qu'il faut mettre en valeur. Nostradamus, effectivement, c'est obscur à dessein. Ça peut prendre n'importe quel sens. C'est un langage chiffré, c'est L'exégèse en est forcément totalement arbitraire. Mais comparez, si vous n'avez pas encore vu les textes prophétiques de l'Ancien Testament, vous verrez que ça n'a rien à voir avec le style d'un Nostradamus ou même les oracles sibyllins ou les oracles de la Pythie de Delphes, une autre devineresse du monde païen qui était volontairement ambiguë. On en a un bon nombre qui se recoupent, qui se confirment mutuellement. On peut aboutir à une interprétation sûre, sérieusement établie. Alors justement, dans cette situation, je suis venu avec deux versions juives du Tanakh pour que Si dans le moment d'entretien que nous pourrons avoir, vous souhaitez que nous allions plus avant, je puisse les consulter, celle du rabbinat français, sous la direction de Zadok Khan, et puis celle d'André Chouraki, qui en un sens n'est pas vraiment une traduction, qui est un peu autre chose, une transcription hyper littérale qui sacrifie parfois le sens, mais qui est quand même très intéressante à certains égards. Puis je suis venu aussi avec la Bible de Jérusalem, dans la qualité est reconnu. Je n'ai pas pris la Nouvelle Bible Seconde parce qu'on m'aurait un peu accusé d'être jugé parti, étant donné que j'y ai collaboré, mais je la recommande bien sûr pour chacun de nous. Première grande ligne, l'annonce du Messie Davidique. Bien que le mot « Messie » puisse s'appliquer à d'autres offices qu'à l'office royal dans les textes du Tanakh, le terme « Messie » qui signifie « oint » qui a reçu l'onction de l'huile sainte peut s'appliquer au grand prêtre et peut même s'appliquer peut-être dans un sens métaphorique au prophète. Donc ce n'est pas exclusivement les rois. Donc, l'usage du mot Messie est cependant principalement orienté vers la promesse du roi à venir. C'est lui qu'on appelle en général le Messie. Du roi à venir de la dynastie davidique qui introduira un règne de paix et de justice qui libérera son peuple comme David l'a fait en son temps. En fait, ce sera un nouveau David, mais un David qui assurera une paix sans fin au royaume de son aïeul, David. Cette promesse est celle qui ressort peut-être d'abord, quand on lit rapidement les textes des prophéties. Et la première prophétie à l'annoncer, c'est celle du second livre de Samuel au chapitre 7. Le prophète Nathan vient annoncer à David que Dieu va lui susciter une ligne de descendants. Alors il y a à la fois la présentation de toute la ligne, de toute la série, et puis il y a certainement un descendant suprême, parce qu'il est question d'un règne sans fin, un règne éternel, qui l'assurera. Et il sera comme un fils pour Dieu et Dieu sera son père. Voilà ce que cette prophétie de Nathan en 2 Samuel 7 énonce. Et c'est en quelque sorte la charte de l'espérance, de l'attente du fils de David dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'expression que les chrétiens emploient pour le Tanakh. On a très vite compris dans le judaïsme que les fils de David qui se succédaient n'épuisaient pas la promesse qui était faite dans ce passage, mais que devait venir un fils de David par excellence qui accomplirait enfin l'espérance de cette royauté juste et pieuse. Et cette espérance s'est d'autant plus affirmée, et la promesse en a été relancée, que les fils de David sur le trône, pendant plusieurs siècles après lui, ont déçu le plus souvent, avec une corruption qui s'est plutôt aggravée alors que le temps passait, corruption morale, corruption religieuse, au point que le prophète Amos, par exemple, au 8e siècle avant Jésus-Christ, première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, peut présenter la maison de David, c'est-à-dire la dynastie davidique, la dynastie royale, dans ce qu'il projette de l'avenir, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, comme une cabane écroulée. Cette maison glorieuse, à cause de tous les péchés de ceux qui la représentent, des rois successifs sur le trône à Jérusalem, va finir par ne plus valoir qu'une cabane en ruine. Et la promesse, c'est que Dieu va rebâtir cette maison de David à partir de cet état. Je rebâtirai. C'est au chapitre 9 d'Amos que se trouve cette promesse. Elle avait été remarquée dans le judaïsme. Dans le traité talmudique Sanhédrin, l'interprétation de Rabbi Nachman est citée, qui, sur la base de ce passage, appelle le Messie le fils de la décadence. Fils de la décadence, fils de l'écroulement. Et il utilise la racine qui se trouve là dans ce passage, la cabane qui tombe. Et il s'était rendu compte que la promesse de 2 Samuel 7 n'allait pouvoir s'accomplir qu'après un temps de jugement, d'abaissement causé par les péchés, les infidélités de tous les fils de David qui régnait à Jérusalem. Et cette image de la cabane écroulée, elle est remplacée chez Ésaïe par celle de la forêt abattue, du grand arbre, du cèdre, coupé à la base, dont il ne reste plus qu'une souche en terre. Vous trouvez cette image au chapitre 6 d'Ésaïe et à la fin du chapitre 10 d'Ésaïe. Et on comprend qu'Ésaïe ait reçu cette image pour nous la proposer. Il vivait, c'est dans la décennie 730 avant Jésus-Christ, il vivait sous le gouvernement du roi Achaz. Et ce roi Achaz a été jusqu'à offrir des sacrifices humains à l'idole des Ammonites, un autre peuple, mais il avait accepté cette idole. Il a offert son propre fils en le jetant dans la fournaise comme un sacrifice entièrement consumé par le feu à ce Moloch, divinité des Ammonites. Vous vous rendez compte jusqu'où était descendue la dynastie du roi selon le cœur de Dieu qu'avait été David. Et alors, c'est à ce moment-là qu'Ésaïe reçoit la révélation que, oui, tous les fiers grands arbres de la forêt vont être abattus, le jugement va passer, mais que de la souche restée en terre, la souche de Yishai, c'est-à-dire le père de David, la famille donc royale, ce nom Yishai en hébreu est généralement rendu Jessé par les Français ou Isaïe dans les Bibles protestantes, mais c'est Yishai en hébreu. Ésaïe voit au chapitre 11 de son livre, immédiatement après la vision de la forêt abattue à la fin du chapitre 10, la souche de la famille de Yishai, c'est-à-dire de David, et un rameau, un petit rameau, un rejeton qui sort de cette souche et qui grandit et qui devient le roi selon le cœur de Dieu, revêtu de l'esprit du Seigneur, esprit de puissance et de force, de conseil, de crainte du Seigneur. Il établit le règne de paix et des conditions paradisiaques sur la terre. Donc là, vous avez l'équivalent de, avec une autre image, de ce qu'Amos avait annoncé, et donc une précision, c'est alors que la famille de David semblera complètement finie et aura sombré dans l'obscurité,
que comme un petit rejeton d'abord. Celui qui doit venir viendra.
Et cette promesse d'Ésaïe est associée, dans les chapitres avoisinants, est associée à deux autres prophéties extrêmement importantes et intéressantes, et qui donc constituent une bonne part de l'annonce prophétique de Jésus-Christ comme le Messie davidique. Il y a d'abord l'annonce que sa naissance sera une naissance extraordinaire, qu'elle sera marquée par un signe, c'est au chapitre 7 qu'on trouve cela. Elle sera marquée par un signe que Dieu lui-même opérera. Le contexte est le suivant. Le prophète rencontre le roi Achaz et lui dit de se confier dans le Seigneur seul, sinon ce sera la catastrophe pour lui. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas établi. Et puis il lui offre, ayant ce message à lui adresser, de demander n'importe quel miracle, n'importe quel signe, mais c'est un prodige évidemment, pour garantir que c'est bien la parole du Seigneur. Demande, depuis le fond du séjour des morts jusqu'en haut, tout en haut dans le ciel, choisis n'importe où, toute la gamme, choisis un signe pour garantir cette parole. Alors le roi est très embêté, parce qu'il sait que le prophète peut très bien produire en effet un tel miracle, et que si le miracle a lieu là devant le public, il sera lié. Alors il essaye de ruser et il exprime une feinte piété en disant « Je ne veux pas tenter le Seigneur ». Ce n'est pas tenter le Seigneur que de répondre à son offre. C'est tenter le Seigneur quand on essaie de lui imposer quelque chose. Mais il répond « Je ne veux pas tenter le Seigneur ». Alors le prophète répond « Bon, tu ne veux pas de signe, tu ne demandes pas de signe, eh bien le Seigneur lui-même va vous donner un signe, maison de David ». La jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils et elle l'appellera du nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alors quel est le signe? Ça devrait être un miracle, un prodige, puisque c'est la riposte au refus du roi Achaz de demander un signe. La façon dont toute la tradition chrétienne a compris cela, je crois qu'elle s'impose. Le terme utilisé, c'est la jeune fille. La jeune fille, d'ailleurs dans la Bible de Jérusalem, c'est bien le terme employé. Le terme Alma employé par ce texte n'est nulle part employé dans le Tanakh pour une femme mariée. Nulle part. Toujours une jeune fille. Donc, il semblait bien qu'il doive s'agir d'un miracle de naissance d'une jeune fille et non pas d'une femme, d'une naissance virginale. Et apparemment, c'est ce qu'ont compris les traducteurs juifs de la Bible en grec, bien avant Jésus-Christ, deux siècles en gros avant Jésus-Christ, dans la traduction qu'on appelle la traduction des Septante, ils ont choisi le mot grec, parthénos, qui signifie vierge, en disant la Vierge est enceinte. Et c'est semble-t-il, parce qu'ils avaient bien compris que le mot hébreu évoque quelqu'un qui n'est pas marié, et si c'est une personne pure et qui correspond aux normes de la conduite biblique, si Dieu s'en sert comme de l'instrument de son miracle, c'est peut-être une personne pure, donc une vierge. Alors le judaïsme, refusant de reconnaître que Jésus, qui est né de la Vierge Marie, a correspondu exactement à cette prophétie, l'a accompli, le judaïsme a essayé de dire par la suite, après donc le Nouveau Testament, que le mot signifiait femme, jeune femme. Et dans les deux versions juives que j'ai avec moi, c'est jeune femme qui est employée. Enfin, disons que dans la traduction de Chouraki, c'est la nubile, ce qui est sans doute un peu plus correct, mais c'est jeune femme dans la Bible du rabbinat. Cette différence est déjà l'objet d'un débat au IIe siècle entre Saint Justin Martyr et le rabbi Tryphon ou Tarpo. C'est sans doute lui qui est appelé rabbi Tarpo dans le Talmud. Déjà, ils discutent du sens de ce mot. Je crois que toutes les raisons philologiques sérieuses sont du côté de l'interprétation de la Bible juive grecque. C'est le mot vierge qui correspond à la fois dans ce contexte et selon l'usage du terme. À la même époque qu'Ésaïe, si les sont contemporains, Michée a eu une prophétie lui aussi sur la naissance de celui qui doit venir. C'est très clairement le Messie attendu et il loge cette naissance à Bethléem. Bethléem, le village duquel David était issu. C'est une façon de dire nouveau David. C'est pas à Jérusalem où régnaient tous les rois fils de David, pas à Jérusalem, mais à Bethléem. Cela correspond à cette pensée de l'abaissement de la dynastie davidique. Si c'est à Bethléem, c'est que ses parents ne seront plus sur le trône, à Jérusalem. Et c'est aussi l'idée que c'est un nouveau David qui va surgir. Donc, ces faits, qui sont les faits de la vie de Jésus, sont annoncés à propos du Messie davidique, dans ses prophètes, chez ses prophètes du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais il y a encore une autre donnée qui est révélée à Ésaïe. Ésaïe annonce la venue de cet enfant, et il y a des contacts entre ces chapitres qui montrent que c'est le même enfant, c'est la même personne, en disant « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, par lequel une grande lumière resplendit pour le peuple qui se trouve dans les ténèbres. Et on appellera son nom littéralement, Merveille de conseiller, Dieu héros, Père d'éternité, Prince de paix. » Et ensuite, le texte continue en disant qu'il assurera une paix sans fin au trône de David, son père. C'est le fils de David attendu. Mais il reçoit là un nom qui est formé de quatre paires de termes en hébreu. En hébreu, vous collez deux mots l'un à l'autre pour avoir un complément de nom. Vous n'utilisez pas, vous n'avez pas besoin d'utiliser une préposition entre deux. C'est comme un... En vieux français, on a quelque chose qui ressemble un petit peu, l'autel Dieu. L'autel Dieu, vous savez, c'est l'autel de Dieu. L'autel, c'est-à-dire l'hôpital. Hospital. L'hôpital de Dieu. Mais on n'a pas besoin d'employer le « de » comme liaison. C'est autel Dieu. Eh bien, de même, vous avez quatre paires de termes dans cet oracle d'Ésaïe 9, verset 5, son nom sera Merveille de conseiller, donc Merveille conseiller. Dieu héros, alors ça peut être simplement deux mots en apposition, Dieu et héros, ou un Dieu de héros. Père d'éternité, Prince de paix. Chaque fois deux termes. Et on a pu remarquer que dans les deux premiers termes, dans les deux premières paires, c'est le premier mot qui suggère une origine supérieure, transcendante, céleste. Merveille. Dieu. Elle. Et dans les deux dernières paires, c'est le deuxième terme. Éternité. Père. Plénitude. Ce titre est extraordinaire. Jamais aucun roi dans l'Ancien Testament n'a porté un titre de ce genre. On ne le trouve nulle part. Même les rois impies dans leur orgueil n'ont jamais essayé de s'approprier quelque chose qui ressemble à ça. Il semble bien que l'annonce de ce titre révèle que cet enfant, que ce fils de David sera
aussi autre chose, plus qu'un simple homme, qu'il a une origine mystérieuse, mais qui va bien au-delà. Et les Juifs l'ont si bien saisi, les Juifs qui refusent de reconnaître en Jésus l'accomplissement de cette parole, qu'ils ont essayé de ruser, mais de façon très gênée avec le texte. Les très grands exégètes juifs du Moyen-Âge, Rachi de Troyes, qui enseignait à Troyes, c'est sans doute le plus grand des interprètes juifs du Moyen-Âge, puis aussi David Kimri, un peu plus loin de Narbonne, les juifs qui étaient en France, à l'époque, ont joué un très grand rôle pour l'ensemble judaïque d'Europe, ont essayé d'interpréter en disant les trois premières paires, en fait, sont le sujet du verbe. Et ils ont bien vu que c'est Dieu, hein, le merveilleux conseiller, la merveille de conseiller, le Dieu héros, le Père d'éternité, et ils ont fait le sujet du verbe. Le Dieu d'éternité, le Père d'éternité, le Dieu héros, appellera son nom Prince de paix. Mais ça ne correspond pas du tout à la structure de la phrase, et en particulier, comme Calvin l'a fait remarquer, l'emplacement du mot son nom est grammaticalement une objection majeure. Il devrait être placé après les trois premières paires, si les trois premières paires représentaient le sujet. Un autre exégète juif qui est venu un peu après, Abravanel, a essayé lui autre chose. Il a essayé de faire des quatre le sujet. Il appellera son nom et lui donnera un grand renom. Voilà comme il l'a fait. Et le sujet, c'est Dieu, merveille de conseiller, Dieu héros, Père d'éternité, Prince de paix. Mais lorsqu'on a un nom comme ça, non, qui vient après le mot « nom », son nom, vraiment c'est trop artificiel. Alors les Juifs aujourd'hui, non, ils ne recourent quand même pas à ce subterfuge, ils se rendent compte que ça ne tient pas. Mais alors que font-ils? Eh bien, au lieu de traduire « Dieu héros » comme c'est dans le texte, selon l'ordre des mots, ils traduisent « héros divin ». Voilà ce qu'on trouve dans la Bible du Rabbinat. Héros divin. Et c'est à peu près l'équivalent chez Chouraki. Mais ça ne correspond pas à cette structure hébraïque où c'est le deuxième mot qui est le mot possesseur. Et si c'était non pas El Gibor mais Gibor El, alors là d'accord, on pourrait dire que c'est héros de Dieu, héros divin. Mais c'est pas Gibor El, c'est El Gibor. Et en plus, El Gibor est employé juste un peu après dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 10, au verset 21, pour le Dieu d'Israël. Et là, tous y traduisent Dieu héros ou Dieu puissant. La Bible du Rabbinat, Chouraki, et c'est exactement la même forme, exactement les deux mots, El Gibor, placés côte à côte. Je crois que c'est l'indice de leur difficulté à admettre ce qui éclate au regard, la correspondance entre ce qui est dit de Jésus dans le Nouveau Testament et l'annonce prophétique que nous avons ici. Ce n'est pas le seul passage où une origine plus qu'humaine pour le fils de David est suggérée. Il y a en particulier le psaume 110. Le psaume 110 parle de lui et annonce que ce fils de David va siéger sur le trône et qu'il va être prêtre en même temps que roi, ce qu'aucun roi de l'Ancien Testament ne pouvait être. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Mais le texte commence en disant « Le Seigneur, Dieu, a dit à mon Seigneur, le Messie, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ce Seigneur auquel les paroles sont dites, c'est le fils de David. Comment David, puisque c'est lui l'auteur du psaume, comment David peut-il l'appeler son Seigneur? En Israël, le Père a toujours prééminence d'honneur sur le Fils.
David ne va pas appeler son petit-petit-petit-petit-fils son Seigneur. Comment l'appelle-t-il son Seigneur? S'il n'est que son arrière-arrière-arrière-petit-fils. C'est ce que Jésus a remarqué, c'est ce que Jésus a fait ressortir. Il a cité ce passage. Et les docteurs juifs qui ne voulaient pas le reconnaître sont restés muets. Parce que nous avons là un passage qui atteste clairement une origine plus qu'humaine pour le fils de David. Ça c'est la première ligne. Deuxième ligne, je vais accélérer. Deuxième ligne, l'annonce du serviteur sacrificiel. Dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qu'on appelle parfois le livre de la consolation d'Israël, et qui est un livre orienté vers la détresse des exilés, de ces Israélites qui ont été emmenés captifs en Babylonie, qui sont restés en gros une période de 70 ans. On n'était pas derrière des barbelés, mais ils ne pouvaient pas rentrer au pays. C'était quand même une situation d'exil douloureuse. Le livre leur annonce leur consolation, que Dieu va intervenir, que Dieu va les faire revenir, comme par un nouvel exode, de même qu'autrefois, leur père avait été captif en Égypte et avait été délivré par l'exode, Dieu allait les faire revenir par un nouvel exode. Et dans ces chapitres, Dieu leur annonce l'émergence d'un libérateur, ou plutôt de deux libérateurs. Il y a un premier libérateur qui sera le libérateur au plan politique, qui va prendre le pouvoir et leur permettre de rentrer au pays. Et il est nommé, précisément, et l'histoire le connaît bien, c'est Cyrus le Perse, qui, effectivement, a pris Babylone en 539 avant Jésus-Christ, et en 538 a permis que les Israélites qui voulaient retourner dans leur pays puissent le faire. Donc Cyrus est le premier libérateur. Mais il y en a un deuxième derrière lui, et à l'évidence plus grand que lui, dont Cyrus n'est qu'une sorte de précurseur qui ouvre la voie, un autre que Dieu appelle mon serviteur. Mon serviteur, en qui son âme se complaît, sur lequel repose l'Esprit de Dieu. Et ce serviteur, on l'appelle très souvent le serviteur souffrant, parce qu'il est révélé progressivement dans ces chapitres que la souffrance va être une part intégrante de sa mission, qu'il viendra pour souffrir et qu'il libérera par le moyen même de sa souffrance. Mais je préfère dire dans mon sous-titre sacrificiel, parce que cette souffrance, il est révélé dans le plus grand des passages concernant ce serviteur, Ésaïe 53, il est révélé qu'elle ira jusqu'à la mort et que cette mort pourra être considérée comme un sacrifice. L'un des termes du vocabulaire technique des sacrifices de l'Ancien Testament, le sacrifice de culpabilité, Hacham, est employé là pour la mort de ce serviteur. Cette mort est annoncée, mais cette mort est annoncée comme un sacrifice de culpabilité, et il est dit que si ce sacrifice de culpabilité est agréé du Seigneur, alors il verra une postérité et il prolongera ses jours. Et en fait, il entrera dans un triomphe, il partagera le butin, c'est à la gloire qu'il atteindra par cette souffrance et par cette mort. Alors j'intitule donc cette seconde ligne, la ligne du serviteur sacrificiel. Avant qu'il soit révélé qu'il offrira ainsi sa vie en sacrifice pour entrer dans la gloire, il est révélé d'autres choses de ce serviteur qui nous permettent de comprendre avec les contemporains d'Ésaïe, quel personnage il pouvait être. Il nous est dit que ce serviteur que Dieu va susciter et qui sera son serviteur de choix, annoncera une Torah au chapitre 42. Il annoncera une Torah. Il rassemblera Israël, chapitre 49. Il le fera revenir, à travers le désert, symboliquement. Le nouvel Exode, il en sera le conducteur. Il sera alliance pour le peuple. Expression qui est employée au chapitre 42 et au chapitre 49. Qu'est-ce que ces termes suggèrent? Il faut immédiatement penser à celui qui connaît un petit peu sa Bible. Torah, alliance, Exode, bien sûr, cela nous rappelle Moïse. Je crois qu'on peut dire très sûrement que ce serviteur, c'est le nouveau Moïse. Le nouveau Moïse qui était attendu sur la base de ce que Moïse lui-même avait prédit. Au chapitre 18 du Deutéronome, Moïse a annoncé aux Israélites que Dieu leur susciterait un prophète tel que lui. Et même les Samaritains qui se sont séparés des Juifs et qui n'ont gardé que les livres de Moïse attendaient